Allons nous gaver d'amour jusqu'à en crever.
Oui.
On vient de faire l'amour, tu sais.
Non, tu viens de faire l'amour.
Je vous demande pardon.
Est-ce que vous l'aimez? Je t'aime.
Et qu'est-ce que je peux bien répondre à ça?
Bonjour Clara.
Bonjour Fleur et bienvenue dans Rom-Com, le podcast qui t'explique comment, mais comment sont construites tes rom-com préférées. Et joyeuse fête de fin d'année à tous. On publie cet épisode après la date de Noël, donc on espère que vous êtes bien. Fourrer le bide un peu comme des grosses dindes, car c'est tout ce qui importe pendant les fêtes de fin d'année.
C'est ça l'esprit le plus important des fêtes de fin d'année. Personnellement, c'est la bouffe. Et j'embrasse les nous du futur, puisqu'on enregistre cet épisode un peu en avant. J'espère que vous avez passé le best Noël. Flore du futur, j'espère que t'as trop bien mangé. Clara du futur, j'espère que t'as trop bien mangé.
Mm-mm.
Donc, c'est le mood. Et aujourd'hui, oui, le mood est festif. Extrêmement festif, je dirais même. Puisque, à quoi on s'attend ? J'arrive pas à croire que je vais dire ces mots, Clara. Mais je vais les dire.
Tu vas les dire.
On s'attaque à une rom-com de Noël homosexuel.
Oh, punaise ! Ça y est, c'est le jour. It is the day. Today is the day. En fait, Netflix nous a fait un très beau cadeau de Noël, plus beau que les cadeaux que toute notre famille peut nous faire. Non, je rigole, papa et maman, aidez-moi pour ma voiture, s'il vous plaît. Ils nous ont offert une rom-com où le couple est un couple gay. Les deux personnes sont outées, donc on ne parle pas de coming out, et c'est un couple biracial.
Et il n'y a pas de mention du coming out, meuf, il n'y a pas...
Non, mais ça, c'est fou.
Vite fait, il y a une mention au tout début, le premier mec que... Mais...
Oui, mais c'est... Enfin, voilà, bon.
Écoutez, si vous n'avez pas encore vu ce film, pour la petite fiche technique...
Alors déjà, il s'appelle Que souffle la romance, parce qu'on on oublie.
Ben après, cela dit, comme il n'y a à peu près qu'un seul film de Noël gay...
Ouais.
C'est celui-là, il n'y a même pas besoin de le nommer, il n'y a que lui. En anglais, il s'appelle Single All The Way, qui est un jeu de mots sur la chanson Jingle Bell, où il dit Jingle Bell All The Way, là où je ne sais pas quoi.
Mm-hmm.
Et c'est un film de Michael Mayer, qui est visiblement un mec qui fait des trucs sur Broadway, voilà, pour les connaisseurs. Et avec Michael Urey.
Est-ce que c'est le frère de Brandon Urey?
Je ne crois pas, c'était un acteur dans Ugly Betty. Voilà, visiblement.
Oui, ça, j'ai vu, ouais.
Mais oui, moi aussi, je me suis demandé si ça avait un quelconque lien avec Brandon Urey. Mais... Et avec Philemon Chambers, qui, je crois, c'était son premier rôle. Je crois qu'il a déjà fait un court-métrage.
Oh.
Donc voilà, c'était un peu des... Parce que ça reste quand même, entre guillemets, un téléfilm de Netflix. Et c'est sorti, donc, le 2 décembre 2021. Pile à temps pour cet épisode, puisqu'on l'enregistre. Nous sommes aujourd'hui le 5 décembre. Vraiment, on n'a pas attendu du tout.
On n'a pas attendu, mais en même temps, on s'est texté toute la semaine pour se dire « Ah, je le regarde ce soir et tout », parce qu'on était trop excités. Parce que si vous nous suivez depuis au moins l'année dernière, vous savez qu'à Noël dernier, on a traité un film qui parlait aussi d'une romance LGBT, qui était donc Noël, ma belle famille et moi, avec Kristen Stewart, et qui malheureusement n'était pas du tout à la hauteur de nos attentes, malgré le fait qu'il y ait Aubrey Plaza, et que Aubrey Plaza a teasé cette semaine qu'il y aurait un « Ma belle famille, Noël et moi 2 » pour que son personnage trouve également l'amour. Donc,
j'allais là, dire, je refuse de le regarder, mais maintenant tu m'as dit que c'était elle, mon personnage préféré, je le regarderai. Merci Aubrey Plaza de nourrir les homosexuels. Nous t'en sommes très reconnaissantes. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on a autant aimé ce film? Est-ce que tu ne raconterais pas un peu l'histoire, Clara, et après je parlerai du trope?
Bien sûr. Alors, on a choisi un trope qui est un de nos tropes préférés, surtout celui de Flore, elle l'aime énormément. Pour cette histoire, donc c'est le trope du meilleur ami, puisque Nick et Peter sont deux meilleurs amis depuis le début de leur jeune vie d'adulte, en gros. Ils habitent à Los Angeles et Peter doit ramener son nouveau petit ami à la maison pour Noël. C'est la première fois qu'il ramène quelqu'un. Et en fait, il se rend compte que son petit ami est en relation avec une femme et qu'il est même marié. Donc c'est un peu la loose. Et il dit à Nick, mais viens avec moi à la maison, on n'aura qu'à prétendre qu'on s'est enfermés ensemble après toutes ces années. Mais en arrivant, ils ne disent rien de tout ça puisque la mère de Peter lui a prévu un blind date, donc un rendez-vous galant à l'aveugle, avec son coach sportif. Et comment vous dire que ça va un peu s'immiscer dans la relation entre Nick et Peter et que moi, personnellement, ça m'a bien réchauffé le cœur et les pieds.
Enfin, c'est exactement ça, c'est juste un film avec 56 000 tropes. Alors, si vous ne savez plus ce que c'est un trope, parce que vous avez bu trop de champagne pendant vos fêtes de fin d'année, un trope, c'est un schéma narratif récurrent dans la fiction. Et du coup, celui qu'on a choisi pour le film d'aujourd'hui, c'est le trope du meilleur ami, qui est, en effet, je pense, mon trope préféré, en tout cas l'un de mes préférés. Mais ce film, meuf, a quasiment tellement... Il a deux de mes tropes préférés. qui sont le meilleur ami et le trope de il n'y a qu'un seul lit pour dormir.
Ah ouais, si là je l'adore.
Si vous êtes des, si vous avez un jour lu des fanfictions dans votre vie, si vous êtes des Wattpad Zoos, des Archive of Your Own Zoos, vous savez de quoi je parle.
Ouais.
Il n'y a qu'un lit. Voilà, voilà. Donc, bon, je pense que vous avez très bien compris qu'on a aimé ce film, mais Clara, raconte-nous un peu pourquoi tu l'as aimé.
Bah, moi, je vais redire ce que je dis l'année dernière, à savoir ma relation avec Noël et... absolument l'inverse d'une relation toxique, c'est-à-dire qu'on trouve tous les deux ce qu'il y a à trouver dans cette relation. Pardonnez-moi d'avance, j'ai un rhume. La dernière fois que j'étais malade pour faire ce podcast, j'avais le Covid. J'aimerais juste vous dire que cette fois-ci, c'est juste un rhume. Mon PCR est tout à fait négatif.
Merci, c'est le cadeau de Noël aussi.
Ouais, année. Grave un cadeau de Noël. Donc, j'adore Noël et j'adore Noël en reconnaissant évidemment tous les torts de productions qui sont créées pendant cette période. Mais... en sachant également à quoi m'attendre. Et en fait, ce que je veux, c'est quelque chose qui prend mon esprit fatigué de fin d'année pendant une heure et demie, qui l'occupe ailleurs, qui lui donne beaucoup de réjouissance, de chaleur, etc. Et qui, voilà, me permet de passer un après-midi correct, sous la couette, en train de manger un bon petit truc, en train d'ouvrir mon calendrier de l'Avent, et de venir un peu... De se reposer devant la télé. Et il y a des films de Noël qui sont extrêmement développés, comme par exemple Love Actually et The Holiday, qui sont parmi nos favoris. Mais cette saga-là de téléfilms de Noël, en fait, c'est un... Je fais un peu un moment d'histoire, mais c'est dans la fin des années 90 et début des années 2000, il y en a plein qui ont été produits à la balle, vous pouvez les voir genre sur TMC, M6, etc. À tous les Noëls, même courant décembre, courant novembre, ça commence généralement. Et en fait, là, il y a une espèce de nouvelle mode depuis, je dirais, 3-4 ans, grâce aux plateformes, donc avec Netflix et Amazon Prime, où ils font des téléfilms de Noël. Donc, on sait que c'est cucu, on sait que c'est de la merde au niveau de la production, etc. Mais ils mettent des thèmes et des têtes d'affiches qu'on ne pourrait pas voir sur M6 ou sur TMC. Donc, par exemple, ce film-là est un direct to VOD. Donc, il est sorti sur Netflix exclusivement, il n'est pas sorti dans les salles. Et comme La Princesse de Chicago, comme le... je sais plus comment il s'appelle, le prince de Noël, là.
Ah oui, Christmas Prince.
Voilà. Et ben, tous ces films-là, tout le monde sait que c'est du 24 millième degré, mais on peut parler du coup de thèmes. Par exemple, dans La Princesse de Chicago, il y a des couples avec différentes couleurs de peau, et dans Que souffle la romance, c'est un couple LGBT, qu'on ne pourrait pas forcément voir sur TMC à 16h. Donc j'ai une bonne relation avec les téléfilms de Noël un peu modernes comme ça. Je sais que c'est pété du casque, mais j'aime trop, et celui-là n'a pas du tout démérité. Il y avait tout ce qu'on aimait, il y avait le retour dans la ville natale, il y avait la neige. Il y a même eu le ski, je m'attendais pas, mais mon père habite et travaille en station, donc j'étais un peu genre, je connais, tu vois, je connais cet environnement. Et voilà, ça m'a beaucoup plu. Il y a un truc que j'ai retrouvé à dire à un moment, mais c'est vraiment une formulation qui m'a pas trop plu à un moment, mais sinon, ça fait le taf, quoi. Je n'attendais pas grand-chose de ce film, il ne m'a pas servi grand-chose à part 1h30 de pur bonheur. C'est mon petit plaisir coupable, voilà. Pardon, j'ai parlé 48 minutes.
Non, c'était magnifique tout ce que t'as fait, parce que tout le truc sur les... T'as très bien introduit le concept des films de Noël, parce que moi, je ne connais en fait pas grand-chose, je suis pas autant une fan de Noël que Clara, mais par contre, depuis des années, je répète à qui veut l'entendre, ou qui ne veut pas aussi l'entendre, parce que si vous avez déjà passé une soirée avec moi, vous savez que je vous laisse pas trop le choix, que mon rêve, c'est de voir une comédie LGBT, une rom-com LGBT qui est pas bien. Dans le sens où c'est pas un bon film, c'est pas du grand cinéma, c'est pas une grande production, c'est pas le film le plus bouleversant que t'as vu de ta vie, mais c'est le film que tu mets le soir, après une journée de taf, quand t'es fatigué et tu veux pas te prendre la tête, et c'est juste un bon film, et c'est léger, c'est pas sérieux, c'est facile, tu sais que ça va bien finir, c'est cucu, mais c'est tout ce que tu veux, parce que franchement, une bonne rom-com qui fait ça, parfois ça fait du bien, juste de regarder ça. Et je pensais que j'aurais ça l'année dernière avec le film Noël, ma belle famille et moi, ouais. Je ne l'ai pas eu du tout. Et du coup, ce film, quand j'ai vu la bande-annonce Netflix, je me suis dit, oh, je crois que c'est lui. Genre, j'ai eu un instinct, je me suis dit, c'est bon. C'est lui. Et je suis tellement heureuse de vous dire, mesdames et messieurs, que je ne me suis pas trompée. C'est oui, c'est lui. C'était tellement tout ce que je voulais. C'est-à-dire qu'il y a 56 000 clichés, il y a des tropes, il y a des trucs qui ne sont pas bien, mais c'est tellement bien parce que c'est exactement ce que je voulais. C'est léger, ça a la résolution que tu veux. Et surtout, il n'y a pas un seul moment, le fait qu'il soit homosexuel n'a quelque chose à voir dans l'histoire. Mmh. Et c'est que ça que je veux. Parce que franchement, le nombre... Réfléchissez là. Arrêtez-vous 5 minutes et réfléchissez à tous les films LGBT que vous avez vu, les rom-com LGBT que vous avez vu, il y a toujours Love, Simon, Dieu sait qu'on l'adore, mais il y a quand même une histoire de coming out. Noël, ma belle famille et moi, n'en parlons même pas. Bon, déjà, il n'y en a pas beaucoup, donc j'ai du mal à en trouver d'autres.
But I'm a cheerleader.
Voilà, Jenny's Wedding, qui est genre une pseudo-rom-com aussi. Pareil, il y a une histoire de coming out, de la famille qui ne sait pas, etc. Et là, non. Donc vraiment, moi, je me suis régalée. Si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande ce film très, 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 très chaudement. Et je vais même aller plus loin et vous dire, si vous n'avez pas aimé ce film, je ne veux pas le savoir. Vraiment, je ne veux pas. Je ne veux pas de cette négativité dans cette vie. Ce film, au bout de un quart d'heure de film, mais même pas 10 minutes, j'ai envoyé une vidéo à Clara, je pleurais.
Oui.
Je sanglotais d'émotion, tellement j'étais touchée que ce film existe. Donc voilà, ici c'est Good Vibe, et je pense qu'on va juste passer une heure à dire que ce film, c'était trop bien. Même si on sait qu'il était pas trop bien, mais on a décidé qu'il était trop bien. Ok ?
Tu devrais venir chez mes parents avec moi. On dira qu'on est tombés amoureux après toutes ces années.
D'accord. Oh, merci.
Je t'adore.
Mais on fera pas semblant d'être ensemble.
Ah si, t'as pas le choix.
Peter, un jeune Los Angelesois, comment on dit ? Un ange de Los qui vit...
Un ange de la télé-réalité, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle.
Ah ouais, c'est comme ça, pardon. Vit à Los Angeles, donc, et travaille visiblement dans la publicité, car on ouvre le film sur une bande de sexy Santa, donc des Pères Noël hot, qui soufflent de la mousse à raser vers une caméra. Et Peter, notre protagoniste, est donc assis dans une chaise et a l'air un peu désabusé de tout ce qui est en train de se passer.
Très clairement, moi, je vous cache pas que le début de mes notes, c'est juste écrit « c'est gay, je vais collapser ». Donc, mes notes, aujourd'hui, ne vont pas être très utiles parce que vraiment, à partir de la minute 1, j'étais hyper excitée de cette situation. Donc, en effet, on comprend qu'il travaille dans le marketing ensuite, on le voit dans son appartement qui est mais rempli de plantes vertes,
ouais.
Qui est très queer-codé, voilà.
On embrasse à ce sujet nos amis Pierre et Elodie qui ont vécu ce week-end queer codé, ils se reconnaîtront avec
nous. Voilà, il parle à ses plantes, etc. Et c'est là que entre très vite en scène le roommate, son colocataire, Nick, qui a un petit chien, toujours très apprécié dans les films, mais on le voit plus longtemps après. Il s'en va, Emmett.
Ouais, mais il fait quand même partie de l'intrigue, donc en vrai, c'est cool. Il s'appelle Emmett et c'est un rescue, donc c'est un chien qui vient d'un foyer. Enfin, non, on dit pas foyer, on dit...
Voilà, SBA, quoi.
Une asso, quoi, voilà. Ouais. Et donc, Nick est son colocataire, mais c'est aussi son meilleur ami. Ils sont super bros, ils sont archi-pips, ils sont trop, trop mignons. Et en gros, le soir, ils ont une soirée de Noël chez des potes à eux. Et on voit qu'ils sont très attentionnés l'un envers l'autre, puisque Peter a préparé la tenue de Nick. Et donc déjà, moi, j'étais séduite, parce qu'il faut savoir que, par exemple, c'est un truc que Flore et moi, on pourrait faire. Donc pas tomber amoureuse à la neige chez mes parents, mais se dire, ce soir, on sort, je pense que j'ai ton outfit en tête, c'est un truc qu'on pourrait carrément faire.
Et un autre truc qu'après on pourrait faire, c'est une fois qu'ils arrivent à la soirée, il y en a un qui lui prend, enfin je crois que c'est Peter prend un cocktail pour Nick, et en fait Nick arrive avec le même cocktail en disant « Ah mais moi aussi je t'en ai pris un !» Et du coup, moi j'adore ces petits détails dans les rom-com, quoi, ils t'introduisent vraiment une relation, ils te font vraiment comprendre que par des petits détails de liens, c'est des gens qui ont vraiment toute une histoire, parce que si je ne me trompe pas dans le film, ils sont quand même amis depuis 8 ans.
Ouais.
Donc c'est quand même une très longue relation. Et alors là, c'est hyper drôle, ils sont dans une espèce de soirée un peu folie homosexuelle, où genre t'as tous les beaux gosses qui sont là, t'es venu avec ton copain, ah bon, il y a ton copain qui vient, mais je sais pas, enfin genre. Et ça, c'est aussi un truc que j'aime beaucoup et qui est assez rare dans les films, c'est que les personnages homosexuels ne sont pas seuls.
Oui.
Parce que tu sais, souvent, en termes de représentation, il y a genre un personnage homosexuel dans le coin, alors que dans la vraie vie, ben, en fait, beaucoup de gens qui sont homosexuels ont d'autres amis qui sont homosexuels et ils gravitent un peu ensemble, honnêtement. On s'attire un peu tous comme des aimants.
En parlant de choses qui gravitent, Peter est très content parce que pour une fois, il ne sera pas célibataire à Noël, puisqu'il propose à son copain, Tim, qui arrive donc à la fête un peu plus tard, parce qu'il est cardiologue, comme Dr Mamour, de l'accompagner chez lui. Et Tim, contre toute attente, dit... Ok, oui. Et en fait, on comprend que la famille de Peter sont hyper heureux parce qu'il a jamais su tenir une relation très longtemps. Donc là, ça fait 3 mois et demi, je crois, qu'il dit qu'il est avec Tim et c'est genre sa plus longue relation. Et donc sa mère est ravie parce qu'il ramène quelqu'un à la maison. Et alors, il va falloir que je débriefe un peu, mais il faut savoir que la mère de Peter, c'est ma mère. C'est, je vous le dis, tout c'est... le film, je l'ai regardé avec roulement de tambour, ma meuf.
Yes, dit, coucou Lucie.
Putain, c'est tellement ta mère à chaque fois que je suis là.
Mais oui. Alors, je le dis, meuf, c'est absolument ta mère. C'est exactement ta mère. Laurent, je t'embrasse, je t'adore, mais c'est vraiment elle. Mais d'ailleurs, il n'a pas encore dit à sa famille qu'il allait rentrer avec quelqu'un, mais oui. Il va plus tard, dans plusieurs scènes, il va le sous-entendre.
Sur FaceTime.
Mais moi, clairement, à partir du moment où il dit à son mec de 3 mois et demi « Viens voir ma famille à Noël », j'étais là
« Oulala,
va y avoir un problème. C'est je ne le sens pas, cette histoire. » Bon, alors, évidemment, on est dans une rom-com. De 1, on est dans une rom-com Netflix. De 3, on est dans une rom-com Netflix de Noël. Donc c'est sûr, c'est gros comme une maison, ce qui va se passer.
Comme une maison sur laquelle Nick pourrait par exemple être en train de faire des réparations. Car le travail de Peter, c'est dans la pub, le travail de Nick, c'est qu'en fait, il est auteur, on l'apprendra un peu plus tard. Donc il a écrit un livre, des livres pour les enfants. Il a écrit un livre avec son chien Emmett en vedette. Mais à côté, pour payer sa vie et ses factures, il fait ce qu'on appelle Task Rabbit. Donc c'est un peu genre Allo Voisin, en gros, en France. C'est tu t'inscris sur une application, tu dis ce que tu sais faire, de la peinture, du bricolage, garder les enfants, ce genre de choses. Et en fait, les gens peuvent t'appeler pour effectuer des petites missions. Et donc là, il est sur un toit, il fait les décorations de Noël du toit. Et le père de famille de la maison, donc de la dame qui commence à râler en mode « Oui, il faut que les décorations, machin », arrive en voiture. Et qui c'est, Flore ?
Mais c'est le cardiologue, c'est le copain de Peter.
C'est Dr Mamour.
Ah non, j'étais là. Là, c'était vraiment un drame à la Grey's Anatomy, ça, très clairement. Et du coup, c'est hyper triste parce que, du coup, forcément, Nick le dit à Peter. En vrai, c'est horrible de devoir dire à ton meilleur pote, genre d'être celui qui doit annoncer ça à ton pote. Oh, terrible. Et donc, il lui dit, donc, il est clairement très, très, évidemment... Peter est ultra triste et surtout il se dit allez ça recommence, je suis... En fait dans ce film on aurait pu je pense aussi utiliser le trope de l'éternel célibataire qui est un trope qu'on a déjà traité dans Bridget Jones qui est le fait que voilà, parce que du coup je sais plus quel âge est censé avoir Nick, enfin
ils ont 35 un truc comme ça
Peter, mais du coup c'est un peu en mode genre allez ça recommence, je vais jamais ramener quelqu'un, je suis toujours seule de toute façon, pourquoi je choisis jamais les bonnes personnes, blablabla bla, bla. Et toi t'es derrière et t'es là, la bonne personne est devant toi, elle est pile devant toi, je te jure. C'est Nick qui, petit point, est sublime aussi, on peut le dire, les deux,
mais en vrai les deux sont très beaux, hein.
Les deux sont très 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 charmants, donc
et on vous rappelle qu'ici, personne n'aime les hommes. C'est donc un jugement qui a de la valeur. Donc, petite rupture au téléphone pour Tim et Peter. Donc, c'est Sad. Et Peter dit à Nick, en fait, tu sais quoi ? Viens avec moi. Tu vas passer Noël tout seul parce que sa maman est décédée. Donc c'est un
petit
trop
bling bling. On pourrait vraiment faire un jingle, tu sais, genre bim bim, ouais, trop. Jingle un trop. Parent qui est mort. Allez, hop.
On n'a qu'à dire qu'on est enfin tombé amoureux après toutes ces années. Du coup, Nick dit, allez, ok, faisons ça. Donc, ils partent tous les deux dans le New Hampshire.
Dans cette scène, il y a vraiment un enchaînement de tropes à la minute. Trope de la fausse relation. Trope de la mère est morte. Trope, c'est là qu'on apprend que Nick est un ancien auteur. Enfin, toujours un auteur, mais que c'est un auteur et qu'il est un peu en crise et qu'il ne sait plus quoi écrire. Mais là, je suis là, mais il y a tout d'un coup.
Et qu'il a un pactole d'argent, mais caché, qu'il garde pour une occasion spéciale. On en reparlera plus tard.
Ouais. Et ensuite, du coup, ils arrivent dans le New Hampshire. Et là, j'ai noté dans mes notes, putain, il y a 8 références queer à la minute. Je pourrais crever de joie. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Donc, on fera pas la liste ici, mais il y a vraiment, il y a des. Et ça, c'est un truc que j'ai beaucoup apprécié dans le film parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de références queer, mais que elles étaient quand même assez. Quand je dis références queer, je sous-entends des références à des choses qui sont culturellement queer codé, RuPaul's Drag Race, des choses comme ça, le fait de pas savoir s'asseoir, le fait d'aimer les plantes, plein de choses. Si vous êtes sur Twitter gay ou TikTok gay, vous savez de quoi je parle. Et j'ai trouvé que tu sentais que c'était hyper sincère. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais que c'était pas juste des exécutifs Netflix qui étaient là. Ok, mais
ça a été fait par des gens qui savent.
C'était pas le Spotify Wrap de cette année qui a essayé de me parler comme une tweetos et qui était là, you slay queen, et j'étais là. Spotify, je t'adore, mais non. Qu'est-ce qui se passe ?
No, I don't. Et dans le New Hampshire, on rencontre donc la maman, Carole, qui est trop à donf. Genre, même elle, Carole, elle est queer codée de ouf. Parce que Carole, Bah justement, elle a fait un peu comme le Spotify Wrapped de Flore, c'est-à-dire que quand ils arrivent, elle a un panneau qui écrit Slay, comme Slay Queen, mais avec Slay qui veut dire traîneau en anglais. Donc un petit jeu de mots queer codé de Noël. Et donc elle lui parle de ce rendez-vous galant qu'elle a prévu à Peter, elle lui explique « Mais c'est génial, c'est mon prof de sport, il est tout nouveau, il vient d'arriver en ville, machin et tout. » Et alors il faut savoir que dans le New Hampshire, c'est un peu comme à Risoul dans les Hautes-Alpes. Moi quand je vais à Noël là-bas, je suis la lesbienne de Risoul. Il n'y a pas d'autres lesbiennes.
J'ai l'impression que tu me parles d'un mythe, tu sais, comme genre c'est le Dahu, c'est le Yeti, c'est genre la lesbienne de...
Chaque année, on va dans un coin un peu reclus pour Noël, c'est ça. Quand on est allé chez mes grands-parents, il y a 3 ans, c'était la lesbienne du Périgord. En fait, j'étais la lesbienne du Périgord.
Même moi, c'est pas moi, je suis la lesbienne du Périgord. Est-ce qu'on serait... On est toutes les deux le même mythe.
C'est une identité qu'on peut revêtir et dévêtir à tout moment. Donc, c'est un peu... Je le dahue, en effet. Il dit, putain, mais c'est fou qu'il y a un autre mec gay qui se soit installé dans le coin. Et en fait, on comprend que Carole, elle veut caser son fils avec un local pour que son fils déménage de LA et vienne vivre dans le New Hampshire.
Un trope très, très, très classique des films de Noël qui est, ouais, en fait... chez moi, c'est un peu les États-Unis qui essaient de te faire dire que les petits bleds des États-Unis ont un charme que les grandes villes comme Los Angeles ou New York n'ont pas. Mais oui, en effet, elle essaie de le caser. C'est rigolo parce qu'ils ont un peu une discussion ultra deep très vite. Elle dit, mais pourquoi est-ce que tu fuis l'amour derrière Tanik, le meilleur ami qui est là? Yes, j'adore. Et un truc que j'ai beaucoup aimé aussi dans cette scène, c'est qu'on se rend compte que Nick est très bien accepté dans la famille. Ouais. Dans le sens où ils sont habitués à ce que ce soit son meilleur ami. Et c'est comme ça aussi, je trouve, que tu installes une relation et que tu fais comprendre qu'ils sont très proches et qu'ils sont proches depuis longtemps, que la famille est habituée, etc. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien.
Ouais, en plus, il arrive et direct, il va aider le papa à réparer une fuite dans le sous-sol. Il est vraiment pris comme un fils à part entière de la famille. Et au niveau de la mère, il y a 2 choses qui m'ont fait... doucement sourire, elle dit « Mais tu me fais pas confiance ?» quand il lui dit « Non mais je veux pas de blind date », ce qui est grave amer. Et elle dit « Non mais je suis en train de lire comment élever mon enfant LGBTQ+. » Et là, Lucie a dit « Excuse-moi, c'est ta mère. » Vraiment, maman, je t'embrasse très fort, je t'aime.
J'ai beaucoup aimé toute cette partie du film où la mère dit qu'elle a lu un bouquin sur le sujet, parce que je trouve que ça met un peu en avant le fait que parfois c'est bien de s'éduquer, mais parfois du coup sa mère, elle essaie de tout ramener à ça en mode genre, non mais parce que j'ai lu dans mon livre et les gens sont là, non mais en fait là on parle pas de ça, on parle d'autre chose, enfin on parle pas du fait qu'ils soient homosexuels, on parle juste du fait qu'ils pourraient aller faire tous les deux du théâtre parce que ce serait rigolo, enfin on en reparlera, ça va revenir, mais j'ai beaucoup aimé ce passage aussi. Du coup, oui, elle veut lui faire un blind date et Nick est à fond derrière, alors que Peter pas du tout. Et j'ai beaucoup aimé la scène suivante où Peter dit à Nick « On était censé faire croire qu'on était ensemble, tu m'as plaqué sans le demander, t'es le pire faux petit ami du monde. » Et Nick est en mode « Non, non, mais moi je pense que tu devrais aller à ce date, ça va très bien se passer. »
Un solide ami. Et on a les sœurs de Peter qui arrivent à ce moment-là. Donc cette famille est encore une fois totalement la mienne. Il y a Lisa, la grande sœur, qui arrive avec son mari et ses 2 filles adolescentes qui sont un peu genre des ados, quoi. Donc trop chou. La fratrie s'entend hyper bien, ce que je trouve cool aussi parce que c'est un trope qu'il n'y a pas souvent dans les films de Noël, en fait. C'est con, mais c'est pareil dans Ma belle famille, Noël et moi. La fratrie s'entendait pas parce qu'il y avait des jalousies, etc. Et là, les frères et sœurs se voient tellement rarement qu'ils sont très proches, et ça m'a beaucoup rappelé comment moi je vis avec mes frères. Donc c'était trop mignon. Il y a aussi du coup Ashley, sa petite sœur, qui arrive avec son mari et ses 2 fils adorables. Et ses 2 fils sont fans du livre qu'a écrit Nick, sans savoir que c'est lui qui l'avait écrit.
Mais surtout là, oui, on a un peu une ribambelle des du coup neveux et nièces. Donc il y a 2 neveux, mais il y a également 2 nièces qui sont les filles de l'autre sœur de Peter, qui, je pense, dans son film, sont clairement moi et Clara. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. C'est juste, c'est nous. Et qui, elles, d'ailleurs, déjà ship de ouf Nick et Peter. Je crois que c'est les premières, ouais, qui disent genre oh là là. Et c'est là aussi qu'on se rend compte que tout le monde veut caser Peter de manière générale. Tout le monde est en mode mais quand est-ce que tu trouves quelqu'un, blablabla. Bla, bla. Et encore une fois, genre je crois vraiment que c'est à partir de cette scène que j'ai commencé vraiment à chialer comme une madeleine devant ma télé parce que j'étais là voir toute cette scène, toutes ces scènes de famille qui sont juste hyper simples, hyper clichés, hyper quand est-ce que tu trouves un mec et tout, et il y a pas une seule discussion de genre ah bah en fait t'es gay, ah tu sais depuis ton coming out, pas une seule mention de ça. J'étais là mon dieu, mais enfin c'est tellement léger, et en plus c'est tellement Moi, personnellement, ça m'a aussi un peu rappelé mon mood familial, qui est que papa, bon, je pense pas qu'il est par ici, mais bisous papa si t'es là. Clairement, lui, je pense qu'il attend qu'un truc aussi, c'est que je trouve l'amour. Et du coup, ça m'a un peu rappelé ça, et j'étais là, genre, oh, c'est trop mignon et tout.
Mais oui, on l'adore. On adore Philippe et on adore cette famille, évidemment. Ah, dans cette famille, on a oublié une personnalité, et pas des moindres, puisque la sœur de Carole, donc la mère, arrive, c'est la tante Sandy, qui est donc une éternelle célibataire, qui a fait une doublure dans une production off-Broadway de La Petite Boutique des Horreurs, et depuis se prend pour la prochaine Jonathan Larson. Donc c'est assez fou. Et elle est jouée par Jennifer Coolidge, qu'ici on apprécie énormément, puisqu'on adore La Revanche d'une Blonde.
Voilà, c'est elle qui joue l'esthéticienne, enfin la nail tech, dans La Revanche d'une Blonde, et qui est un peu considérée de nos jours comme une icône queer malgré elle. Donc c'est un peu aussi un clin d'œil de l'avoir mis dans ce film, que je trouve assez rigolo. Oui. À ce moment-là, Nick, on repasse, c'est le lendemain matin. Nick ouais. a trop hâte que Peter aille en date, ce qui, on le verra par la suite, n'est pas très logique parce que.
Ouais, mais justement, enfin, je trouve que c'est de l'overcompensation. Je trouve que oui. ça marche.
Non, mais de ouf. Et donc, c'est la rencontre dans la salle de sport. Peter, lui, il y va clairement en reculons. Et là, on se rend compte que le prof de sport de sa mère, avec qui il y avait donc le casé James, est très beau. Alors, je veux dire, moi, ça me fait pas d'effet, mais bon, je sais pas pourquoi je fais genre. Non, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Il est très Ken, genre, il est très. C'est genre un gym bro, quoi.
Oui. Mais c'était si drôle, cette citation, ce truc très. Mais oui, il est conventionnellement attirant pour un homme.
Voilà, et j'adore ce moment parce que sa mère les présente, elle fait genre « Voilà, c'est James, il est Verseau !» J'étais là, mais c'est tellement un move de daron, de ta daronne, précisément, que j'ai beaucoup aimé. On embrasse Scorpion Queen.
Bien sûr.
Et du coup, ils vont au date,
et le date est extrêmement cute. Ils vont dans un petit café qui, on verra plus tard, en fait, le café tenu par la sœur de Peter. Mais ils vont dans un café et tout, c'est mignon. Et il lui dit: ah merde, je suis désolée, je pensais certainement avec ma mère que du coup t'allais être en date avec le mec le plus mignon et intéressant du coin. Et James lui dit: bah peut-être que c'est le cas, non? Et Peter éternue dans son café, et j'étais genre: ah, c'est grave un move que j'aurais pu faire pendant un date, donc c'est très relatable.
Mais tu vois, ça aussi j'ai beaucoup aimé, c'est ultra cliché le truc de tu t'étouffes dans ta tasse parce que quelqu'un t'a fait un compliment et tout, enfin, mais j'étais là, mais c'est ça que je veux juste ça, mais avec tes autres. Si ce film, on vous le dit direct, si ce film existait avec un couple hétérosexuel, ce film aurait mais zéro intérêt, vraiment zéro intérêt.
Oui.
Le seul intérêt que c'est ce film, c'est le côté homosexuel. Là, clairement, ils vont faire un petit shopping aussi de Noël où ils vont acheter un sapin de Noël.
Ouais, pour chez la mère de Peter. Et on apprend au détour d'une conversation que James est prof de ski aussi.
Oui.
Donc, excusez-moi, ça, je hurle, mais être mono de ski et prof de sport, c'est à la fois très queer-codé et très hétéro-codé.
Grave, c'est genre, c'est un deux extrêmes sur le...
Oui, c'est genre, les choses qui sont à la fois gays et homophobes, c'est grave ça.
D'ailleurs, depuis tout à l'heure, on utilise le terme queer-codé, mais si vous ne savez pas ce que c'est, Clara, tu nous fais un petit checkpoint.
Alors, quelque chose de queer-codé, c'est quelque chose qui, dans la culture populaire, est assimilé à la communauté LGBTQ+. Donc, par exemple, l'émission RuPaul's Drag Race, le fait de marcher très vite, de boire des cafés glacés alors que il fait moins 23 dehors. Évidemment, c'est à prendre au 24 millième de degré et pas à se dire « Quoi, mais c'est hyper négligé, c'est super homophobe ce que vous faites !» Car évidemment, c'est de la rigolade avant tout et c'est de la culture Internet.
Voilà. Si vous êtes, encore une fois, si vous êtes sur Twitter ou TikTok, vous comprenez. Donc, ils sont sur leur petite... Ils vont prendre un... Ils sont à la Christmas Tree Farm. Et j'ai noté dans mes notes... Taylor Swift a grandi dans une ferme de sapins de Noël. Je pense que les gens ont besoin de le savoir. Voilà. C'est un podcast. Aussi, c'est Taylor Swift Cast, ici. Mais donc, ils récupèrent le sapin, ils rentrent et Peter... Et... Attends, non, ils s'embrassent pas encore. Non, ils s'embrassent.
Non, c'est après.
Et Peter rentre chez lui, et là j'adore aussi la mère, elle a que des panneaux Pinterest, tu sais, avec des citations, se dédient partout dans toute sa maison, et j'étais là, ah ah, j'adore, un peu un move que je pourrais faire. Hier j'ai vu ce film, ça m'a fait hyper rire, et hier j'étais dîner chez ma tante, et elle avait littéralement un panneau avec écrit genre, les amis sont comme les étoiles, on ne les voit pas toujours, mais on sait qu'ils sont là, ou je sais pas quoi, j'étais là.
Bah, grave un move qu'on pourrait faire, voilà. Après, vous savez, c'est drôle parce qu'on a l'air jeunes et fashion comme ça, mais on a aussi des grosses daronnes. actuellement, sur ma table de nuit, il y a un tableau avec des vulves, donc c'est pas exactement le mood qu'il y a chez moi. Mais j'espère devenir cette daronne qui met des citations sur des panneaux en bois dans sa maison parce qu'elles ont toutes l'air trop heureuses. Et c'est vraiment ce à quoi j'aspire dans ma vie, c'est être heureuse comme une daronne qui met des panneaux en bois dans sa maison. Donc il va faire les courses parce que bah, c'est le moment de load up pour Noël. Et alors c'est très drôle parce qu'il fait des courses donc, de vin. Donc on rappelle qu'ils sont une famille entière, donc parents, les enfants des enfants, une grand-tante et un conjoint chacun. Ce qui fait une quinzaine, vingtaine de personnes. Ce qui donc ressemble au Noël chez moi, parce qu'on est énormément dans ma famille. Et ma copine qui fête Noël en petit comité était là, putain, mais il remplit vachement le caddie, non ? Et il met en effet des litres et des litres de vin blanc. Et moi, j'étais là, oh. Parce qu'on est toujours beaucoup. Et maintenant que tout le monde est en âge de boire, c'est vrai que, bon, bah, à Noël, il faut faire des réserves, quoi.
L'alcoolisme low-key familial à Noël, un grand classique aussi. Oui. Si vous écoutez cet épisode en gueule de bois de Noël, on vous embrasse.
On est là pour vous.
Ils se croisent donc, oui, et du coup, ils se croisent, Nick et Peter se croisent tous les deux dans le magasin en train d'acheter du vin. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là, je vais faire une toute petite critique dans ce film. Une toute petite critique. Que je trouve que parfois, il y a des scènes où la complicité entre les deux personnages principaux est genre crève l'écran. Et il y en a d'autres où je la trouve un peu moins crédible. Parce que moi, je suis là, je croise ma meilleure amie en train de faire des courses de vin dans le supermarché en même temps que moi. On se rentre pas dedans en faisant « Oh, tiens, toi là !» On fait genre « Wesh, bitch, toi aussi, t'es là !»
Enfin, ouais,
tu
vois, ouais, c'est... Ouais.
Il y avait quelques moments. Après, je trouve que le film les fait évoluer, c'est-à-dire que plus ils se rapprochent et plus ils acceptent qu'ils sont amoureux l'un de l'autre, plus il y a une complicité très forte. Donc, j'essaie de me dire « Non, mais au début, c'est parce qu'ils sont tous les deux gênés par la force de leurs sentiments. » Mais non, je vais vous dire, c'est juste que c'est un film Netflix et qu'il a des défauts. Mais je refuse de le voir.
Non, mais si, je pense qu'il y a... c'est clairement une erreur que j'ai vue aussi. On ramène ensuite le sapin chez les darons. Comment s'est passé son date? Super bien. Oh mon Dieu, ça s'est bien passé. Ça veut dire que tu vas revenir dans la région. Donc là, tout le monde est en train de devenir fou. Vous deviennent fous. Et James propose à Peter, par texto, d'aller skier le lendemain. Alors, là, on a un point daron. Parce que le point daron, dans les films où il y a des enfants LGBT, il est toujours là. La mère, elle a toujours un truc à dire. Elle est toujours fan de l'enfant, généralement. Le père, rarement. Le père, c'est souvent la caution un petit peu plus sérieuse, un petit peu plus homophobe, on va le dire très clairement. Et là, le daron, il est tellement investi dans la vie sentimentale de son fils, ça m'a fait plaisir. Parce qu'il est là, écoute Nick, je suis pas fan de l'histoire du blind date, je pensais que Peter et toi, vous finiriez ensemble. Et t'as les nièces qui débarquent dans la buanderie où ils sont, elles font, ouais, nous aussi. Et je te dis, genre, c'est quoi cette famille de fous, par contre? T'as pas le droit de dire, c'est ma famille, d'accord? Je vous le dis, c'est ma famille.
Mais j'aime beaucoup parce qu'il lui dit... tu es la seule personne que Peter nous a jamais présentée. Je vois qu'il est heureux avec toi. Et du coup, j'étais là. Ouais, je vais chialer. Et là, il a dit ma phrase préférée du film. Nick répond au père. Oui, mais c'est mon meilleur ami. Et le père répond. Ma femme est ma meilleure amie aussi. J'étais là.
Oh, oui.
Et je vais vous dire. Je vais faire une aparté. Attention, je vais vous tenir la jambe sur pourquoi est-ce que le trope du meilleur ami est mon trope quasiment préféré, je pense. Voire mon préféré tout court. C'est parce que je trouve que souvent, dans les films et dans les rom-coms, quand t'as pas très longtemps pour instaurer de la tension amoureuse et sexuelle entre deux personnages, on le fait souvent passer par l'amour-haine ou par la bisbille, on chafouille, on se fight, etc. Et c'est un peu le qui aime bien châtie bien. Et moi, c'est pas un truc que j'aime beaucoup de base. Et c'est pas un truc, en tout cas, auquel moi je relate dans les choses qui me plaisent aussi de façon personnelle. Et du coup, voir des films qui mettent vachement en avant le fait que l'amour, c'est aussi l'amitié forte, que c'est le respect.
La complicité.
Voilà, la complicité et tout. Oh, bref, donc voilà, c'est pour ça que j'aime autant ce trope. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé cette réplique.
Non, mais je suis totalement d'accord avec toi. C'est un très bon trope. Il fait ensuite des essayages pour aller sur les pistes le lendemain avec James. Et je note que c'est un vrai skieur, mais skieur sûr, vous savez, venant d'une famille moi-même de skieurs, il a laissé son vieux forfait sur sa veste de ski. Et ça, c'est pour vraiment faire genre, j'étais déjà l'année dernière, frérot. Donc, c'est vraiment les locaux qui font ça. Pendant ce temps, on va à l'église pour le spectacle de Noël que la tante Sandy est en train de monter. On va passer un peu vite sur cette intrigue, mais en gros, c'est n'importe quoi. Elle est hyper égocentrique. Et du coup, les gosses s'amusent pas du tout. C'est ce qu'on appelle en anglais une nativity play. Donc, en gros, une reconstruction de la crèche en pièce de théâtre. Et donc c'est un peu lourd cette intrigue de côté, mais disons que ça prend beaucoup de place dans le film, alors que bon.
Ouais. Voilà. Mais cette intrigue va nous servir sur la fin, mais t'as raison qu'on va passer assez vite dessus pour l'instant. Mais par contre, pour Peter qui est en date avec James au ski, lui il vit mieux sa best vie. Et un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est que Peter parle beaucoup de Nick à James.
Oui, il parle que de Nick.
Et ça, je trouve que c'est aussi une manière très futée de nous montrer la complicité qu'il a avec son meilleur ami et le fait qu'en fait, il l'aime. Même si, heureusement, que juste parler de ses meilleurs potes, ça ne veut pas dire qu'on est secrètement amoureux d'eux, parce que moi, je parle de mes potes non-stop. Du coup, c'est trop mignon. Il leur raconte en particulier le meet cute qu'ils ont eu.
Ah oh. Vas-y, c'est le meilleur meet cute. Il est pour toi.
Il dit, on s'est rencontrés dans une queue à la salle de sport et il y avait un discount de famille et du coup on a vu les gens devant nous avoir un discount de famille et du coup on s'est regardé, on s'était jamais parlé de notre vie et on a improvisé on the spot pour dire qu'en fait on était ensemble, qu'on avait besoin. Et du coup on se rend compte qu'ils ont déjà fait un fake dating à un moment de leur vie.
Oui.
Mais du coup c'est trop mignon et tout, j'étais là, oh my god, j'adore. Et James il sourit et tu sens que James, il a déjà compris. Parce que d'ailleurs aussi nous on le comprend très vite parce que James à un moment il parle de redéménager ici et Peter dit ouais non je sais pas, j'ai déjà pensé à redéménager ici mais je sais pas pourquoi je le fais pas, et tu vois dans ses yeux tu le fais pas parce que tu veux pas quitter ton love.
Il veut pas quitter Nick. Et il y a une phrase dans ce moment qui est trop bien où Nick lui envoie une photo de lui avec ses nièces à l'église et il dit je suis FOMO-sexuel, et j'ai marqué aidez-moi, j'en pouvais plus de rire parce que le FOMO en anglais c'est la fear of missing out, donc c'est la peur de rater des choses quand tu ne participes à certaines activités et pas d'autres. Et donc la blague avec FOMO-sexuel, j'ai énormément ri.
J'ai trouvé que le film était assez drôle parce que là on passe assez vite sur les blagues qu'il y a eu parce qu'on peut pas, tu mets tout le truc de Christmas Carol, les trucs et tout.
Oui.
J'ai beaucoup aimé.
C'était très très bien. Le date au ski se finit de manière très hétéro puisqu'ils s'embrassent et le mec lui dit on se fait un après-ski. Et là j'étais là, oh là. Qu'est-ce qu'il y a?
Attends, non, excuse-moi, c'est très homosexuel aussi pour les hommes.
C'est les deux.
Voilà. C'est très masculin en fait, c'est pas très féminin.
Ouais.
Voilà.
Ouais, voilà.
Mais alors, pendant qu'ils s'embrassent, donc moi déjà, un poignard dans le cœur, parce qu'à côté, qu'est-ce que fait Nick? Nick, il est en train d'écrire une suite de son bouquin. Avec dedans Peter et lui. Du coup, j'étais là, oh my god, je suis love. Après, mais en même temps, à ce moment-là, encore une fois, on regarde une rom-com Netflix de Noël. On sait que ça va bien finir. Mais moi, j'étais si investie, meuf. J'étais tellement investie.
Bah, surtout que là, on arrive au moment où, du coup, Peter rentre chez lui et il raconte tout à Nick et t'as toute la famille qui est à l'intérieur qui épie ce qui se passe. Et il lui dit, ouais, on s'est embrassé et tout. Je pense que je vais peut-être revenir vivre ici, etc. Et là, on voit que le cœur de Nick est clairement brisé. Et donc, la famille fomente un plan ensemble pour les pousser à faire des trucs ensemble et les rapprocher.
Parce que à ce moment, eux, ils parlent dehors, mais t'as toute la famille qui est dans le salon, qui les regarde par la fenêtre et qui sont là. Et t'as les nièces, donc Clara et moi, je les ai appelées comme ça, Clara et Flore, qui sont en mode, mais c'est pas possible, deux gens qui se regardent comme ça, deux personnes qui se regardent comme ça, c'est qu'elles s'aiment et tout machin. Et alors, en plus, moi, à ce moment-là, j'étais dans tous mes drames parce que Peter dit à Nick, mais qu'est-ce que j'ai à LA finalement? Et j'étais là, mec, des gommes. Et ensuite, il dit cette phrase que j'ai adorée, il dit, il y a des gens que j'aime bien à LA, mais il n'y a que toi que j'aime. Et j'étais là.
Ouais.
À ce moment-là, je pleure, j'allais me jeter par ma fenêtre. C'était beaucoup d'émotions pour moi. J'ai vraiment vécu ce film avec beaucoup d'intensité.
Oui. On retourne aux répétitions de la pièce des enfers. Donc la pièce de Noël à l'église. Et en fait, les deux, donc du coup Nick et Peter, vont aider la tante à monter un spectacle parce qu'elle est vraiment complètement submergée. Il faut répéter les gamins, c'est trop cute, c'est sur la version de Whitney Houston de Joy to the World, que j'aime beaucoup, qui sera sans doute la musique de fin de cet épisode. Et oui. À ce moment-là, tout va pour le mieux, ils se rapprochent, tout c'est trop mignon et tout. Et là, Peter reçoit un message de son travail qui lui dit qu'il a besoin de faire une toute nouvelle campagne pour le client du début. Donc le mec qui voulait vendre de la mousse à rager avec les sexy Santa. Et là, son père lui suggère d'utiliser Nick parce que, Nick c'est une bombe. Donc pourquoi tu me prends pas en photo? Et là, j'étais genre, mais j'aime trop ce trope! Il est trop bien!
Et là, on a le petit moment. Alors par contre, ça me fait trop rire parce que du coup, ils font une campagne photoshoot avec un iPhone. Écoutez, je sais pas si vous...
Alors honnêtement, je vais être honnête avec vous, j'ai bossé dans un média pendant 3 ans. Il y a des choses qu'on fait au téléphone maintenant parce que certains téléphones permettent de faire des images de qualité sans se trimballer un barda exceptionnel. Donc il y a des interviews qui sont filmées à l'iPhone 12. Il y a des photos qui sont capturées à l'iPhone 12 et ensuite retouchées. Tout est dans Lightroom quand on fait de la photo.
C'est vrai, t'as raison, de la photo mais de pub. Pour une photo Instagram, oui, mais par contre pour un billboard, tu peux pas faire une affiche gigantesque non. avec une... Enfin, tu peux, mais ça aura pas le même. Mais vous savez
non,
quoi,
mais là, c'est une campagne Instagram, de toute façon.
Oui, de toute façon, je m'en fous. Parce que moi, ce qui compte pour moi, c'est qu'ils sont en train de faire un photoshoot tous les deux dans la neige. Avec, et ils font une espèce de bataille de... machin. Et il y a une tension. Là, c'est le moment où il y a la bascule. Et il y a un début de tension sexuelle qui s'installe.
Ah ouais.
Où j'étais un peu là, genre... Oh my God, it's happening. Et vraiment, j'étais trop contente. Sauf que, qui c'est qui vient tout casser? Qui c'est qui vient tout casser?
Bah, c'est James qui envoie donc un énième SMS. Il faut lui couper les bras, celui-là, pour qu'il puisse texter. Pour l'inviter à boire un coup. Et Peter, il est là, oh, j'ai pas trop envie d'y aller, j'ai envie de rester avec vous et tout. La famille et Nick. Et Nick lui dit, non mec, vas-y, ça se trouve ça va marcher. Auto-sabotage, j'ai noté. C'est terrible de faire ça. Mais heureusement, il y a un contre-sabotage de la part de la famille.
Mais parce qu'il y a quand même toute cette discussion où Nick lui dit, non mais vas-y. Et Peter dit, ah bon. Et tous les deux, en plus, on sent que c'est le moment où il n'y a pas une communication très claire entre les deux. Parce qu'il y a une discussion en mode, je crois que tu veux y aller, mais tu me dis que tu penses que je vais y aller. Enfin, tous les deux ne se comprennent pas trop. Alors que moi, à ce moment-là, j'étais devant ma télé, j'étais là, mais putain, parlez-vous, vous voyez bien.
Une fois de plus, les gars, la communication. Il n'y a pas d'autre morale à ce
voilà.
podcast.
Allez, c'est le moment conseil cast.
Psychocast. On est toujours là. N'oubliez pas de communiquer avec votre partenaire, ainsi que vos amis, vos proches et vos collègues. Lénis et la tante sont heureusement sur le coup, mais elles n'ont même pas besoin de saboter le date, puisque Peter ne parle que de Nick pendant son date. J'adore. C'est comme si là, vous allez en date avec genre un mec hyper beau, vraiment, vous dites le courant passe bien et tout, et il fait que de parler de Flore. C'est-à-dire, il parle que de Flore, que de Flore, que de Flore. Et là, vous vous dites...
Mais en même temps, il y a bon, tellement de choses à dire sur moi.
Oui, après, ça dépend de la manière dont il parle de Flore. Je vous dis, oui, voilà.
Voilà. Oups là. S'il parle mal de moi, vas-y, donnez-moi son numéro, c'est qui ce connard.
On lui pète les genoux. Il non, participe mais, quand même au photoshoot de la mousse à raser, lui aussi, du coup.
Oui, non mais là, à ce moment-là, mais à juste avant, attends, parce que juste avant le photoshoot de la mousse à raser,
ah oui,
passe
oui, il lui
la
dit,
scène
ouais.
la plus importante, il y a les deux nièces, Flore et Clara, j'ai décidé qu'elles s'appelaient, qui ouais. parlent à Nick, et qui lui disent, mais allez, il est sur un toit en train de mettre encore des lumières, et il dit, mais allez, dis-nous, elle tient en otage son échelle pour pas qu'il redescende, et elles disent, on voit bien que t'es amoureux de oncle Peter, dis-le, et moi j'étais là, dis-le, et là, il le dit. Il le dit tout simplement, mais voilà, moi c'était beaucoup pour moi. Nick le dit, oui, j'avoue que j'ai déjà eu des sentiments pour lui, peut-être que j'en ai encore, mais je vois bien que c'est pas réciproque, puis de toute façon on est trop proches, machin, je sais pas quoi. Du coup j'étais là, c'est la bascule. Et de l'autre côté de cette bascule, Peter, lui, qu'est-ce qu'il fait? Le bâtard.
Il faut y aller en photoshoot donc avec James, en mode mousse à raser dehors, etc., parce qu'apparemment le client a adoré. Et James lui dit, mais monte dans mon appart à la fin, tu vois, tu peux rester dormir et tout. Et là, Peter fait, non, je vais rentrer dormir. Et c'est la meilleure décision puisqu'on arrive sur le troupe que tout le monde attend, qui est le troupe de, ah non, ils doivent dormir dans le même lit.
Parce que les nièces, les bestes, ont squatté la chambre.
Flore et Clara.
Voilà, Flore et Clara ont squatté la chambre de Peter. Et du coup, il n'y a qu'un seul lit, ils doivent dormir ensemble, j'étais là. Mais merci doux Jésus, je sais pas fait, à quel point j'étais heureuse que ça se passe, j'aime tellement. Et du coup, il dorme juste, mais en plus il se passe vraiment rien. Après, je vais vous dire, ce trope n'était pas parfait pour une raison, c'est parce qu'ils étaient dans un lit double. Or, dans les vrais, dans le classique shit du trope, il n'y a qu'un lit, c'est tu dors ensemble dans un lit simple. Parce que
ou
c'est comme
dans
ça
une
qu'il se
tente
passe un
avec un loup-garou qui attend dehors. C'est comme ça, c'est la loi.
Voilà. Il n'y a pas d'autre. Et vous êtes en train de faire une hypothermie, cela.
Voilà, y a pas, c'est la loi, c'est comme ça. C'est comme ça.
Du coup, le lendemain, c'est
la veille de Noël.
Oui, c'est la veille de Noël et c'est le jour de la pièce de théâtre où les deux nièces sont déguisées en mari un peu slutty. Ça me fait trop rire.
Slutty Marie et slutty Donkey. Mais il y a eu un truc, là c'est ma remarque à ce film, c'est de dire, alors certes ce sont des enfants mineurs et les enfants ont quand même l'autorité de leurs parents à respecter, mais tout le monde est là genre « Oh là là, mais elles sont trop maquillées, mais elles sont trop machin, trop truc et tout », et j'étais genre « Oui, en fait, après c'est un spectacle de Noël, c'est une joke, on est peut-être aussi pas obligé de faire tout ce foin sur... » que les jeunes filles, quand elles portent un crop top et du maquillage, c'est moins bien que quand elles sont déguisées en Vierge Marie, tu vois. C'est un peu le puritanisme américain qui m'a gênée.
Je suis d'accord, mais bon. Je trouve que comme le fait qu'est quand même que c'est une pièce sur Marie, c'est un peu genre, c'est peut-être pas l'endroit où il faut que tu t'habilles comme ça, tu vois.
Mais écoutez, les croyants dans nos auditeurs, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Moi, je suis all pour amener des drag queens à l'église. Donc, je suis chaude.
Mais du coup, Peter dit bon, ok, je vais les maquiller moi-même parce que là, c'est pas possible et tout. Et les nièces continuent à jouer les entremetteuses et elles sont là. Mais allez, mais on voit bien que. Et là, mais pareil, c'est trop mignon la phrase qu'il lui dit. Enfin, qu'il dit, il dit genre. Non, mais c'est vrai que j'ai peut-être aussi, moi aussi, déjà eu des sentiments. À ce moment-là, il ne sait pas que Nick a des sentiments pour lui.
Oui.
Mais Peter dit oui, peut-être que j'ai déjà eu des sentiments pour Nick, mais je sais pas, mais. Et la nièce se dit, mais tu ferais quoi si c'était réciproque? Il dirait, bah, je serais fou de joie. Et j'étais là, je vais clamser.
Je vais cry, c'était terrible. C'est hyper mignon. Et donc, c'est le moment de la représentation, donc le matin de la veille de Noël. La représentation se passe bien dans le coin de l'église. Qui se tient la main?
Mais parce qu'attends,
Peter.
Attends, très très important. Juste avant qu'ils aient la représentation, la nièce glisse.
À Nick, en effet.
À Nick, le feeling est mutuel. Enfin, ouais. Genre, c'est réciproque. Et d'ailleurs, là, Nick, il a un smile. Du coup, à ce moment-là, je lévite sur mon siège. Je lévite. Je suis en mode, c'est tout ce que je veux. Et oui, ils ont cette gestuelle si mignonne où ils se tiennent le... Et c'est là que j'ai commencé à me dire, ah, là, j'aime bien ce qu'ils ont fait de justement cette espèce d'alchimie, de rapprochement physique où tu sens que c'est... Après, moi, c'est aussi, je suis quelqu'un de très tactile, donc je trouvais qu'au début du film, ils étaient quand même pas des masses tactiles pour des meilleurs amis.
Non,
ouais,
c'est vrai.
Mais tout le monde est différent. Et là, j'étais là, oh là là. Et d'ailleurs, qui c'est qu'il y a dans le public de cette pièce de théâtre?
Bah, comme c'est un petit village, il y a James. Et James voit Nick et Peter. Et James, c'est là, sans rancune, je pense que ça ne matche
ouais,
pas.
On va en parler après, mais j'aime
ouais,
beaucoup le personnage de... Enfin, ce que James va faire après. Du coup, ensuite, ils sont tous les deux dans la cuisine. Et Peter lui dit, merci d'être venu. Tu rends tout... Enfin, grâce à toi, tout est toujours mieux. Enfin, genre, tu rends ma vie meilleure. Ils se font un câlin. Là, je suis en mode, oh my god, it's happening. Et vas-y, je te laisse raconter, parce que là, moi, à ce moment-là, beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions.
Nick dit à Peter, je suis amoureux de toi. Donc moi, déjà, j'aimerais juste vous dire que il y a un truc que je trouve plus mignon que les gens qui se disent je t'aime, c'est les gens qui disent je suis amoureux de toi, parce que je trouve que le mot amoureux, il est trop mignon et il veut dire tellement de choses plus que genre aimer quelqu'un, et je trouve ça très beau. C'est bon. Mais j'aime l'amour, qu'est-ce que vous voulez? J'aime le love et le fromage. Et
comme ça, ici, on est controversé, on aime l'amour.
Malheureusement, oh non, ça ne se passe pas du tout comme prévu, puisque Peter fait mais je veux pas perdre ton amitié, et donc là, vraiment, on était devant la télé avec Lucie, on... Non! Non! Non!
Ah mais... J'ai poussé un hurlement, meuf, devant ma télé. J'ai fait genre... Mais j'ai quand même bien aimé parce que... Alors déjà, j'aime beaucoup les scènes de déclaration de manière générale dans les rom-coms, parce que je préfère quand il y a des déclarations plutôt que juste des baisers directs en mode genre on s'embrasse, alors que là, j'aime bien moi quand il y a un petit truc. Et en plus, je trouve ça... Je trouve que avouer à quelqu'un que tu l'aimes, c'est quelque chose de très vulnérable et de très courageux. Et du coup, j'aime toujours bien quand c'est dans des films. Et là, je trouve que la réaction... C'est trop touchant, la réaction de Peter, parce qu'il dit pas moi aussi je suis pas amoureux, enfin non moi je suis pas amoureux de toi ou machin, il dit juste je veux pas te perdre en tant qu'ami. Du coup là je suis là oh my god, et là qui c'est qui débarque? Là par contre j'étais saoulée, j'étais là mec read the room,
parce que il débarque comme un cheveu très musclé sur la soupe, j'ai noté.
Et en plus à ce moment là on se rend compte aussi, Nick se rend compte que Peter a aussi fait un shooting photo
Avec James.
Et ça c'est un classique aussi, un peu du trope, c'est genre ce qu'on avait de spécial tu l'as fait avec quelqu'un d'autre et tu m'as un peu trahi.
Ouais.
Là, dans ce moment-là, ça, c'est un peu le drame. Et du coup,
toutes les chansons d'Olivia Rodrigo, je vous le dis.
De ouf. Exactement. On l'adore, je l'adore, vraiment, top dans mon
style
de rap. On l'embrasse. Tiens, j'aurais passé par là. Non, mais. Voilà. Et du coup, ils disent bon, on va boire un verre et tout. Et moi, je suis là, mais non. Et du coup, Nick dit « Ah oui, je viens avec vous, mais attendez, j'ai juste un appel à passer, je reviens. » Mais toi, tu sais très bien.
Il ne reviendra jamais.
Et donc, on le voit qui fait sa valise. Et moi, j'étais là « Je vais mourir. » Non. Alors que c'est dans Homecom, je sais que ça va bien finir, mais à ce moment-là, c'est très dur pour moi. Et du coup, James et Peter, eux, boivent un verre. Et James a enfin la présence d'esprit de lui dire mais tu crois pas qu'en fait on est juste pas un bon match ? Et j'étais là, merci. Et j'ai beaucoup aimé parce que c'est hyper sain comme discussion. Et c'est pas toujours le cas dans les rom-coms, ils font souvent des énormes trucs. Et là c'est assez sain. Et d'ailleurs James lui dit, tu as une connexion avec Nick, ça se voit. Quand tu parles de lui, tu as des étoiles dans les yeux. Voilà. Et si vous avez déjà vu Clara parler de sa copine, vous savez de quoi on parle.
Oui. Ah, qu'est-ce que quoi ?
Et voilà, elle ne sait plus parler. Elle est trop là.
Il lui dit donc, va le chercher, frérot. Et là, j'étais là. Mais Nick, il a regardé sur son GPS un peu plus tôt de l'aéroport. Je me suis dit, est-ce qu'on va avoir la courte poursuite jusqu'à l'aéroport ? Oui ! Non. Eh non, déception. Mais bon, c'était pas loin. On n'était pas loin de la voir. Puisqu'en fait, il va se rendre compte que la voiture de Nick est garée devant une boutique vide sur le chemin de l'aéroport.
Ouais, et je permets juste de faire un petit point citation juste avant qu'il y parte. James lui dit tout ce que tu veux est là. Et Peter lui répond ça me fait peur. Et James lui dit lance-toi. Et ça aussi, j'aime beaucoup ce trope de genre j'ai peur du bonheur, mais non, attrape. C'est cliché, mais je veux. Et du coup.
Moi, j'adore le bonheur.
En effet, parce que. Attends, exactement. Parce que pourquoi est-ce que Nick s'est arrêté dans une boutique ? Parce qu'il y avait un dernier truc tasque rabbit.
Voilà, c'est ça. Donc en gros, un mec lui a dit tu peux repeindre ma boutique. Il a dit allez, ok, de toute façon, j'ai genre 4 heures à tuer avant mon vol, donc je repeins une pièce. Et du coup, Peter part pour l'aéroport, trouve la voiture de Nick devant la boutique, il rentre dedans. Et là si Flore l'évitait, moi j'étais dans la stratosphère. Je vous jure. Mais
déjà, moi à ce moment-là, il y a une paire de répliques que j'adore qui est Peter qui dit à Nick mais pourquoi tu me répondais pas ? Et Peter lui dit mais si je t'ai répondu mais il y a 5 minutes mais tu sais tu m'as envoyé un message il y a 8 minutes je vais genre en mode calme-toi tu sais tu viens juste de me contacter et
j'attends c'est grave moi je suis désolée
clairement Nick lui il a eu enfin parce que clairement Nick il est en mode qu'est-ce qui se passe et Peter il a eu son épiphanie en mode genre il faut que je te parle maintenant et là Nick lui dit j'ai un cadeau de Noël pour toi et toi si t'as un peu compris qu'on était dans une rom-com de Noël tu sais ce qui se passe mais en effet comme on l'a dit à ce moment-là nous on est dans la stratosphère donc incapable de parler, juste en train de vibrer, de la pure vibe, 100% de la vibe. Et il lui dit je t'ai loué ce magasin vide, reviens ici et fais ta boutique de plantes dont tu rêves.
Écoutez, c'est beaucoup là pour l'équipe de Rome, comment ?
Parce que en plus, Peter lui dit mais avec quel argent tu fais ça ? Nick lui dit bah, avec l'argent que j'ai de côté grâce à mon livre. Et Peter lui dit, mais je croyais que c'était de l'argent que tu gardais pour un truc important. Et Nick lui répond, tu es important.
Et surtout, il dit en anglais, I was saving it for a rainy day. Donc ça veut dire, je le gardais pour un jour de pluie. Et là, ma meuf a dit, c'est pas un jour de pluie, c'est un jour de neige. Et j'étais là, oh mon Dieu, c'est tellement rom-com-esque comme réflexion. C'est parfait. Non, mais
là, je suis... Bon, déjà là, donc là, c'est la mort, je chiale. Donc là, et là, que fait enfin Peter ? Il lui dit, je suis amoureux de toi, moi aussi. Et j'étais là. Alors là, bon, plus de mes notes, c'est juste des majuscules dans tous les sens. Le baiser, allez, bye, j'adore, je veux dead, je suis dead, rien à dire, bye, merci Dieu, le baiser. Voilà.
C'était trop bien.
C'était voilà, et bien. Donc là, ils s'embrassent. Ah, je ris parce que j'ai plus aucune note ensuite, alors qu'il y a quand même une.
C'est moi, j'ai des notes.
Merci donc, parce que moi, à ce moment-là, je veux vous dire, ma dernière note vraiment de mon truc, c'est je suis morte. Voilà, c'est la dernière note que j'ai mise. Et ça me rend tellement heureuse.
C'est ainsi qu'elle a Perry. Et non, car en fait, le lendemain, c'est donc le matin de Noël, tout le monde ouvre ses cadeaux. Et Peter et Nick officialisent leur relation vis-à-vis de toute la famille et disent qu'ils vont revenir ici s'établir, puisque de toute manière, Peter veut ouvrir sa boutique et que Nick, étant auteur, peut travailler de où il veut. Et le dernier plan du film, c'est un plan très mignon, ça bégaye très fort, parce que c'est Nick qui offre la suite des aventures de Emmett, son chien, en manuscrit au neveu, enfin à son neveu du coup, à son, au neveu de lui et Peter, et qui, le neveu ouvre et lit la fin et dit « Et Peter, et Nick, et Emmett s'installèrent dans le Connecticut et furent très heureux. » Et là,
le New Hampshire, meuf, le New Hampshire.
Oh merde, le New Hampshire, excuse-moi, le Connecticut. Je sais pas pourquoi j'ai pris le Connecticut.
J'étais là, on a switché le New Hampshire. Et là, tout le monde fait oh! Et là, c'est le moment où, oui, en effet, où Peter dit oui, on va revenir ici ensemble. Ensemble. Là, t'as toute la famille qui hurle d'hystérie, nous. Et ils se font, et ils s'embrassent. Et moi, j'étais là.
Il est vite. On l'évitait tous.
J'étais trop. Et voilà, et c'est pareil, c'était juste. C'est tellement cliché, mais c'est tellement mignon. Et moi, j'étais là, oh my god. Et voilà, et ensuite, le film est fini, je suis trop heureuse. Voilà, voilà, juste, mais que de la good vibe, de la pure good vibe. J'étais tellement heureuse. Voilà, on a juste passé une heure à dire que ce film était trop bien. Mais il n'était pas révolutionnaire, c'était pas la meilleure rom-com de la Terre. Mais mon Dieu, ça faisait tellement du bien de voir ça. Et je suis tellement heureuse que des jeunes peuvent voir ça de nos jours, voilà.
Les gays savent toujours faire un tas de trucs, tu vois. Mmh. Et bizarrement, ils ont tous une obsession pour moi.
Encore une fois, il n'y a pas beaucoup de suspense quant à la conclusion de ce podcast. Après, honnêtement, j'ai rien à dire parce que ma conclusion, c'est con, mais je l'ai faite au début. J'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le thème du podcast du téléfilm de Noël et du trope au début. Donc honnêtement, je vais laisser Flore parler, mais pour moi, c'était un très bon moment de Noël cocooning qui se vante pas d'être plus que ce qu'il n'est. Belle représentation. Voilà.
Bah écoute, j'ai envie de te dire, j'ai quelque chose à ajouter. Non, j'ai vraiment rien à rajouter aussi. Pour une fois, je suis dingue. SRS, la première fois dans le podcast qu'on n'a plus rien à dire. Non, j'ai beaucoup aimé ce film parce que comme tu l'as dit, il prétend pas être autre chose qu'il est, c'est-à-dire juste un téléfilm de Noël qui, si encore une fois, il était avec deux personnages, enfin avec un couple hétéro, serait un téléfilm comme les autres. Mais ce n'est pas un téléfilm comme les autres parce qu'en fait, encore aujourd'hui, en 2021. Une histoire d'amour entre deux hommes traitée de façon légère, ce n'est pas quelque chose de très commun. Donc voilà, je remercie Netflix de m'avoir donné tout ce que je voulais, c'est-à-dire un film bourré de tropes ultra clichés, avec juste un mignon petit couple homosexuel. Et d'ailleurs, ce film m'a énormément fait penser à une créatrice de contenu que j'aime beaucoup et que je vous recommande de ouf, qui s'appelle Caroline Clidonas, avec un K, qui est une femme qui fait des vidéos sur TikTok, mais qui est aussi sur Instagram, où justement elle fait des trucs sur les clichés, sur les tropes, et à chaque fois, clairement, on se les envoie tout le temps, parce qu'elle fait des mini-sketchs où elle joue genre le Meet Cute dans une rom-com de Noël, et en gros, c'est des petits sketchs qui montrent à quel point c'est cliché. Et honnêtement, ce film m'a un peu fait penser à ce genre de format, parce que c'est cliché à mourir, mais c'est franchement, parfois, c'est ça qu'on veut. C'est tout ce qui fait du bien. Donc, j'ai juste envie de dire merci Netflix, merci les gays, bravo les lesbiennes, enfin bravo les gays, en l'occurrence, pour ce film. c'était vraiment chouette et je suis contente qu'on ait un film de Noël comme ça. Joy to the world, the Lord
is come. C'est sur Whitney Houston qu'on se quitte ça. Quel plaisir pour terminer l'année 2021. Personne n'aurait mieux pu le faire que Madame Houston. Donc je suis très heureuse de cette petite
version. We did it. We did it, Joe.
We did it, Joe.
The next president. On a survécu à 2021.
Et vous aussi. Incroyable. Oui. Bravo à nous tous.
Et bravo. Merci de nous avoir écoutés. Récemment, on a eu tous les petits retours avec Spotify Wrapped du fait qu'on était dans le top des écoutes de podcasts de certaines personnes. Ça nous a beaucoup touchés. Merci beaucoup. Si vous nous aimez bien et que vous voulez plus de notre contenu, vous pouvez nous retrouver sur Instagram et sur Twitter. Sur Instagram, c'est plutôt moi qui réponds aux messages. Et sur Twitter, c'est plutôt Clara.
Oui.
Mais aussi, on a maintenant une petite nouveauté, Clara. Oui. Attention.
On a une page Patreon, ce qui nous permet en fait d'avoir des contributeurs mensuellement. Donc, c'est-à-dire que si vous nous aimez et que vous voulez nous soutenir financièrement, on rappelle que Rom-Comment est produit intégralement par nous et nos moyens, donc c'est-à-dire qu'on a acheté tout le matériel, les softwares, etc. Qu'on paye l'abonnement également à une plateforme qui nous permet de diffuser le podcast. Vous pouvez donc contribuer à l'essor de Rome Comment en devenant contributeur sur Patreon. C'est une page tout simplement où vous abonnez à des contenus en plus sur le podcast. Il y a un live mensuel, il y a nos recommandations culturelles tous les mois. Il y a également un petit sticker si vous choisissez la plus haute formule Rome Comment. Sticker qui d'ailleurs en 2022 devrait être commercialisé différemment que sur Patreon, donc pour que tout le monde puisse avoir l'occasion d'en acheter un. Et aussi, évidemment, nos meilleures blagues et nos meilleurs...
Et surtout, d'ailleurs, des petits sondages.
Ah oui, voilà.
Pour que vous puissiez choisir quel est le prochain film qu'on traite. Attention.
Tous les trois mois, si je ne me trompe pas, toutes les trois émissions, vous allez donc pouvoir choisir le film entre deux films qu'on vous proposera, qu'on traitera la prochaine fois. On vous retrouve donc sur Patreon. Tout est sur nos profils sur les réseaux sociaux. On espère, on remercie déjà les contributeurs et contributrices qui ont déjà donné, c'est assez ouf, on est trop contentes et merci beaucoup. Grâce à vous, on va pouvoir, on espère, améliorer la qualité de ce podcast, techniquement parlant évidemment, puisque nous, on ne changera pas, car c'est toujours nous en 2022.
On reste entière pour 2022.
Voilà.
C'est ça nos résolutions, on reste qui on est.
On vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, une très belle nouvelle année.
Et j'ai envie juste de dire maintenant, bisous Clara.
Bisous Flore.